Les conférences du Collège de France.
Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette conférence. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Shifra O'Leary, qui est l'ancienne présidente de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, la première femme présidente de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, un poste qu'elle vient de quitter après 9 ans comme juge à la Cour. Durant son mandat de juge à la Cour européenne des droits de l'homme, Shifra O'Leary avait assuré différentes autres fonctions, dont la fonction de présidente de la 5e section et la fonction de vice-présidente. Mais précédemment, Shifra O'Leary avait endossé d'autres rôles judiciaires dans l'autre Cour judiciaire européenne, qui est la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg, où elle a été, au fil des années, référendaire, chef de cabinet et chef d'unité à cette même Cour de justice à Luxembourg, Cour de justice où nous nous sommes rencontrés il y a 25 ans, et je dois beaucoup à Shifra O'Leary. En parallèle de sa pratique judiciaire dans ces deux cours européennes, Shifra O'Leary enseigne depuis de nombreuses années, elle n'a jamais cessé d'enseigner, au Collège d'Europe de Bruges, mais aussi dans différentes institutions européennes, dont des institutions en Irlande. Elle est spécialiste de la protection des droits fondamentaux en droit de l'Union européenne et dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais aussi, c'est très important en cette période difficile, elle est spécialiste des droits sociaux et des droits du travail en Europe. Et elle nous propose cet après-midi de faire ce que peu de personnes peuvent faire et qu'elle va pouvoir faire grâce à cette expérience unique qu'elle a, c'est-à-dire de brosser un portrait passé et présent de la Cour européenne des droits de l'homme et nous éclairer sur ses défis et, nous l'espérons, son avenir. Donc un grand merci, chère Shifra, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très très heureux. Merci.
Je voudrais d'abord remercier le Collège de France et la professeure Besson pour leur invitation à cette conférence, de même que la Fondation Hugo pour l'accueil chaleureux dans cette partie magique d'une ville qui est déjà magique, et de la part de quelqu'un qui a passé une automne particulièrement pluvieuse au Grand-Duché de Luxembourg, merci pour ce petit goût de soleil hier et aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous me voyez aujourd'hui honorée de représenter, au moins indirectement, la Cour européenne des droits de l'homme dans cette enceinte académique si prestigieuse. Mais je suis aussi profondément reconnaissante du fait que, en invitant une ancienne présidente de la Cour pour vous parler, pour s'exprimer devant vous, vous faites également honneur à la Convention européenne des droits de l'homme qui aura bientôt 75 ans. Le thème de mon discours, quel avenir pour la Cour européenne des droits de l'homme, a vocation à inspirer une réflexion en ces temps agités en Europe, déjà mentionnée par la professeure Besson, marquée par la guerre qui fait encore rage en Ukraine, le recul de l'état de droit, l'érosion de la démocratie et une polarisation accrue de la société dans de nombreux États, j'ose le dire, même en France. La question de l'avenir de la Cour de Strasbourg nourrit de longs débats d'ordre institutionnel et académique. Et je serais bien en peine de dresser le bilan concret dans un seul discours de toute la diversité de propositions et prévisions déjà faites. Je n'ai pas l'intention ni la capacité d'offrir des solutions simples et prêtes à l'emploi concernant l'avenir de la Cour. Et en outre, je considère que des anciens juges doivent rester prudents et mesurés dans leurs propos, évitant de s'avancer dans le champ du politique. Cela dit, j'entends m'appuyer sur une vue d'ensemble des succès et des difficultés du passé et du présent pour vous inviter à une réflexion profonde et sincère sur la voie à suivre pour le système de la Convention et pour la Cour européenne des droits de l'homme. Diverses adaptations procédurales ont déjà été entreprises par la Cour à la suite d'un processus de réforme appelé Interlaken qui a débuté en 2010. Ce processus cherchait à la fois à rendre la Cour plus efficace, mais aussi à renforcer le caractère subsidiaire de son rôle par rapport aux autorités et aux juridictions nationales. Et je ne souhaite pas remettre en cause ici ni les diverses réformes entreprises avant et pendant ce processus, ni, et c'est là un point vraiment crucial, l'essence du droit de recours individuel qui constitue le pierre angulaire du système de la Convention. Toutefois, je voudrais marcher sur les traces d'au moins deux de mes prédécesseurs, les présidents Wildhaber et votre compatriote Jean-Paul Costa, en appelant à une réflexion sur le rôle futur de la Cour en Europe qui ne se bornerait pas à envisager des modifications à la marge des compositions judiciaires, de la gestion des requêtes et de la procédure sur le mode de ce qu'on pourrait appeler bricolage. Mon intervention de ce jour consistera donc à mettre en lumière les principaux développements liés à la Convention qui se sont survenus dans le passé, expliquer les défis qui se posent dans le présent avant d'essayer quelques éléments de réflexion importants pour une vision de l'avenir. Afin de comprendre quels sont le rôle et le fonctionnement de la Cour de Strasbourg dans l'Europe moderne, il faut comprendre les origines de la Convention. Ces origines remontent, comme vous le savez, la plupart d'entre vous sans doute, aux atrocités commises par les régimes totalitaires sur le sol européen et au-delà pendant la Seconde Guerre mondiale. La Convention a été conçue comme un système d'alerte avancé destiné à combattre les premiers signes de totalitarisme, et celui-ci, comme l'a fait observer Pierre-Henri Taishan, un des pères fondateurs, et ils étaient tous des pères fondateurs, ne se développe pas dans un jour. Selon lui, et je vais le citer, « le mal progresse sournoisement et les démocraties finissent par être asphyxiées ». Les 10 premières autres parties contractantes ont créé un système international de protection des droits de l'homme qui était unique en son genre. Dans le statut du Conseil de l'Europe et le préambule de la Convention, elles ont donc exprimé leur engagement en faveur de valeurs européennes communes, la démocratie, le respect des droits de l'homme et l'état de droit. Les origines de ces valeurs sont à chercher dans les traditions constitutionnelles communes aux États fondateurs et dans les traditions et ou les aspirations des États membres qui les ont rejoints par la suite. Aujourd'hui, on voit ces valeurs communes reflétées dans le traité de l'Union européenne depuis la dernière modification du traité de Lisbonne en 2009, une nouveauté à laquelle je reviendrai vers la fin de mon intervention. Dans les années 50, les États fondateurs ont en outre créé une cour chargée de faire respecter ces valeurs et de conférer ainsi un effet pratique et juridiquement contraignant aux droits proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies. La raison première de la Cour et du caractère juridiquement contraignant des obligations conventionnelles a été très bien décrite en 1949 par Hirsch-Lauterpach, professeur du droit international et membre de l'équipe britannique à Nuremberg. Selon lui, et je cite, « même dans des pays où l'état de droit fait partie intégrante de l'héritage national et où les tribunaux sont les gardiens fidèles des droits de la personne, il est possible de mettre en place une procédure qui marquera du sceau du droit international le principe selon lequel l'État n'est pas le juge ultime en matière des droits de l'homme. » Comme nombre d'entre vous le savent, dans le système initial, qui est resté en vigueur près de 40 ans, jusqu'en 1998, trois institutions étaient chargées de faire respecter les obligations auxquelles avaient souscrit les États contractants: la Commission, la Cour et le Comité de ministres du Conseil de l'Europe. Au départ, les requérants n'avaient pas directement accès à la Cour, leurs requêtes devant d'abord être examinées et filtrées par la Commission européenne des droits de l'homme. Une affaire qui n'était pas déclarée irrécevable par la Commission était soit soumise à la Cour pour qu'elle statue avec force obligatoire, soit tranchée directement par le comité de ministres à la lumière du rapport de la Commission. À ses débuts, la Cour était peu active. Entre 1959 et 1976, elle était saisie de seulement 18 requêtes. Elle ne fut même pas sollicitée du tout pendant une période de 7 ans. Et le premier juge belge, Henri Roland, s'est ainsi demandé s'il méritait bien le titre de juge. Dès lors que la Cour d'aujourd'hui, la Cour de 2023, a traité plus de 38 000 requêtes, prononçant des arrêts à l'égard de plus de 6 900 requêtes, la question qu'un juge à Strasbourg se poserait aujourd'hui est tout à fait autre. Pourtant, pendant cette première période peu productive, la Cour a instauré certains principes fondateurs importants. Par exemple, l'affaire Lawless contre Irlande, qui portait sur la détention extrajudiciaire des membres de l'IRA dans les années 50, a établi les principes de base relatifs au droit de dérogation en cas d'état d'urgence. Et ce droit de dérogation prévu par l'article 15 de la Convention a été, comme vous le savez peut-être, déployé par la France à la suite des attaques terroristes en 2015. Dans cette première période, dans l'affaire linguistique belge datant de 68, la Cour a également planté les premiers jalons de sa jurisprudence relative à l'interdiction de discrimination et au droit à l'instruction. Les années 70 sont considérées par la doctrine comme un âge d'or de la jurisprudence de Strasbourg, pendant laquelle ont été rendus de nombreux arrêts de principe. On peut citer à titre d'exemple Golder contre Royaume-Uni sur le droit d'accès à la justice, Tyrer aussi contre le Royaume-Uni sur la désignation d'un châtiment judiciaire corporel subi par un écolier comme une peine dégradante au sens de l'article 3 de la Convention, Erie contre Irlande sur l'accès effectif aux tribunaux en matière civile, y compris par l'octroi d'une aide judiciaire gratuite, arrêt révolutionnaire en son temps, ou Marx contre Belgique, sur l'interdiction de la discrimination à l'égard des enfants nés hors mariage. Dans ces arrêts, la Cour de Strasbourg a élaboré son approche téléologique à l'interprétation, selon laquelle la protection des droits de l'homme doit être effective, ainsi que la doctrine de l'instrument vivant, selon laquelle la Convention peut et doit être interprétée à la lumière des conditions actuelles de notre société. Elle a également reconnu que les États peuvent avoir des obligations positives et ne pas être seulement liés par une obligation négative de ne pas entraver l'exercice des droits individuels. Au cours des années 90, à la suite de la chute du mur de Berlin et avec l'élargissement du Conseil de l'Europe à cause notamment de l'adhésion des États d'Europe centrale et orientale, le nombre des affaires a commencé à augmenter. À la fin de l'année 98, alors que l'on dénombrait 40 autres parties contractantes à la Convention, un peu plus de 7000 requêtes étaient pendantes. La grande révolution du système de la Convention a eu lieu la même année, avec la création d'une cour unique et permanente. Cette réforme, introduite par le protocole 11, a donc mis fin à la fonction de filtrage de l'ancienne commission et a permis aux requérants de saisir la cour directement. Toutefois, ce changement, si je peux l'appeler copernicien, a coïncidé avec l'augmentation progressive de la charge du travail que je viens de vous décrire, du fait de l'accroissement rapide de l'étendue, mais aussi, il est important de souligner, de la complexité de l'espace juridique soumis à la Convention. Il est vite devenu évident que les réformes consacrées par le protocole 11 n'étaient pas pleinement adaptées à l'environnement rémanié dans lequel devait fonctionner la nouvelle Cour. Le nombre des affaires entrantes augmentait au rythme d'environ 10% par an. Un arriéré a donc commencé à s'accumuler et le retard dans le traitement des affaires sont allés croissant. En 2011, alors que l'institution comptait de 47 autres parties contractantes, la Cour était saisie de plus de 160 000 requêtes. Et cette situation était bien évidemment préoccupante, dès lors que le volume des affaires pendantes risquait d'étouffer le système. Des réformes additionnelles visant à réduire l'arriéré d'affaires, notamment le recours accru au comité de trois juges et l'instauration de formations de juges uniques qui sont chargés de rejeter rapidement les requêtes manifestement irrécevables, avaient été proposées en 2004, mais ces mesures ont été adoptées seulement en 2010 avec l'entrée en vigueur du protocole 14. Les premiers résultats de ces réformes étaient prometteurs. La Cour est parvenue à faire diminuer substantiellement le nombre d'affaires attribuées à des formations judiciaires. Mais cette décrue a été quand même de courte durée. Depuis 2016, le nombre de requêtes pendantes est en augmentation sous l'effet d'évolutions régionales et sociétales importantes, voire de crises ponctuelles, qu'il s'agisse par exemple de l'afflux de migrants observé à partir de 2015, des conséquences de la tentative de coup d'État intervenue en Turquie en 2016, de la pandémie de COVID-19 ou de la multiplication de conflits interétatiques sur notre continent. Plus de 62 000 requêtes sont désormais inscrites au rôle de la Cour aujourd'hui. Le maintien de ce chiffre à un niveau relativement bas, au moins par rapport à 2011, est grâce principalement à trois facteurs. D'abord, la création de comités additionnels de trois juges pour traiter rapidement et par la voie d'une procédure sommaire les requêtes russes à la suite de l'expulsion de la Fédération russe en 2022. Ensuite, l'absence de nouvelles requêtes provenant de la Russie, qui était par avant le grand pourvoyeur de requêtes. Et enfin, la radiation du rôle en 2017 de 12 000 requêtes ukrainiennes relatives à la non-exécution de décisions de justice. Ce dernier est un problème systémique en Ukraine que j'évoquerai un peu plus en détail ultérieurement. La Cour elle-même a apporté une contribution majeure au processus de réforme grâce à une rationalisation de ses méthodes de travail visant à accroître son efficacité et à un changement de sa politique judiciaire à certains égards. Pour les magistrats, les étudiants et les avocats ici présents, je parle de l'introduction des arrêts pilotes, de l'adoption d'une politique de prioritisation, ainsi que de l'instauration des juges uniques que je viens de mentionner, qui sont habilités à rejeter de manière rapide les requêtes considérées manifestement irrécevables. Il n'en demeure pas moins que depuis 26 ans et la création de la Cour unique, la Cour de Strasbourg a été confrontée par les difficultés posées par le volume d'affaires et par le fait qu'elle représente potentiellement la juridiction de dernier ressort pour plus de 650 millions de personnes sous la juridiction de l'espace juridique du Conseil de l'Europe que la Cour a vocation à servir. Au milieu des années 90, l'un de mes prédécesseurs, le président Reistel, a noté que la Convention était devenue, et je cite, le plus important dénominateur commun juridique et politique des États du continent européen dans son acception géographique la plus large, une loi constitutionnelle pour l'ensemble de l'Europe en matière de sauvegarde des droits de l'homme. La réalité aujourd'hui est, je crois, plus complexe et plus contestée. D'abord, la Cour de Strasbourg de 2024 s'inscrit dans un système de sauvegarde des droits de l'homme qui fonctionne à plusieurs niveaux et qui se compose des cours suprêmes et constitutionnelles nationales des 46 États membres du Conseil de l'Europe, de la Cour européenne des droits de l'homme elle-même, mais également de la Cour de justice de l'Union européenne. Le rôle de cette dernière juridiction dans la défense des valeurs fondamentales qui sous-tend non seulement la Convention mais aussi l'Union européenne a évolué parallèlement avec l'expansion des compétences de l'Union européenne et au changement du contexte dans lequel la Cour de justice doit opérer. Ainsi que vous avez sans doute vu dans les arrêts rendus par la Cour de justice dans le cadre, entre autres, de la crise de l'état de droit en Pologne et en Hongrie, les valeurs européennes communes, maintenant énumérées à l'article 2 du traité de l'Union européenne, sont devenues un élément clé dans le raisonnement de la Cour de Luxembourg qui souligne de plus en plus sa propre vocation constitutionnelle au sein de l'Union européenne. Ensuite, l'ordre international, fondé sur le respect du droit et issu d'un consensus après-guerre dont la Cour européenne et la Convention sont les produits, n'a jamais été aussi mal accepté ni autant décrié par certaines depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On est devant une tendance claire vers la critique des institutions de justice internationales ou ce qu'on appelle en anglais « cherry picking », s'agissant des décisions qu'elles adoptent, selon qu'elles plaisent ou selon qu'elles ne plaisent pas. Or, les crises se sont installées durablement dans notre quotidien, accompagnées des mêmes phénomènes qui se manifestent pourtant différemment dans différents États. Un repli national, une révalorisation des frontières, un renforcement du rôle de l'exécutif ou souvent une compression des droits et libertés. En début d'année, répondant aux récentes attaques contre l'ordre juridique européen en France, le président de votre Conseil constitutionnel a senti le besoin de souligner dans son discours de vœux du mois de janvier ce qui suit, et je cite, « La notion d'état de droit est le ciment même de l'approche européenne, que ce soit à l'échelle du continent, dans le cadre de la Convention, ou à l'échelle de l'Union européenne. Ne perdons pas de vue la stabilité, la crédibilité et l'influence qu'apporte à nos nations la dimension européenne. Ce qui doit nous choquer est la force et la fréquence avec lesquelles ces rappels doivent être faits, malgré le fait que, avec une partie de l'Europe en guerre et partie du monde occidental de plus en plus polarisée, l'Europe est clairement plus forte unie que divisée. Il est important de souligner, compte tenu des critiques de la justice européenne, voire de la justice internationale, que la relation de la Cour européenne des droits de l'homme avec les juridictions supérieures est placée sous l'égide de deux principes essentiels, à savoir la subsidiarité et la marge d'appréciation. Tous les deux sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et désormais, ils sont énoncés dans le préambule de la Convention. Selon ces principes, la Convention devrait être appliquée en premier lieu au niveau interne par les autorités nationales et, si nécessaire, par les tribunaux nationaux. Dès lors qu'elle jouisse d'une légitimité démocratique directe et se trouve en principe mieux placée que le juge national pour se prononcer sur le besoin et les contextes locaux, les autorités nationales se voient reconnues aussi une marge d'appréciation. Au cœur de la relation essentielle entretenue entre les juridictions nationales et la Cour européenne des droits de l'homme se trouve le dialogue jurisprudentiel. Cette relation peut être marquée par des accords ou par des désaccords motivés. Ces désaccords, toutefois, pourvu qu'ils soient empreints de ce que l'un de mes prédécesseurs a appelé la loyauté critique, peuvent contribuer aussi de manière effective à la sauvegarde et au développement des droits de l'homme en Europe. Par exemple, l'approche retenue par la Cour concernant l'utilisation des dépositions de témoins absents dans une procédure pénale avait été remise en cause par les juridictions du Royaume-Uni qui ont expliqué les difficultés que l'interprétation de la Cour avait posées pour un système de droit commun. Ce dialogue entre les juridictions nationales et la Cour, caractérisé par la loyauté critique, a conduit à une clarification nécessaire et à une évolution de la jurisprudence de la Cour en la matière. Par la suite, dans une affaire allemande, la Cour a encore affiné cette jurisprudence pour expliciter la manière dont les normes pertinentes de la Convention pouvaient fonctionner dans un système de justice pénale de droit continental. Dans le contexte de l'élargissement du Conseil de l'Europe que je viens d'évoquer, le système de la Convention a joué et continue de jouer un rôle crucial pour l'évolution des démocraties, y compris celles encore en transition de l'Europe centrale et orientale. À l'égard des États membres qui ont rejoint l'Union européenne à partir de 2004, la Convention a joué un rôle essentiel, d'abord en les préparant sur la voie d'adhésion et puis en sanctionnant leurs éventuels manquements aux valeurs européennes communes. Je pense par exemple aux arrêts de la Cour relatifs à l'indépendance judiciaire et à la condamnation de la Pologne, entre autres États, à la suite de réformes judiciaires qui ont cherché à miner cette indépendance et le respect des exigences de l'État de droit. Et on peut s'attendre à ce que le contrôle judiciaire exercé par la Cour de Strasbourg De même que le travail d'autres organes du Conseil de l'Europe, tels que la Commission de Venise, joueront un rôle également important à l'égard des États du Conseil de l'Europe qui se sont accordés le statut à l'adhésion ces dernières années, tels que la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Moldavie et l'Ukraine. Cette plus-value de la Convention européenne est, à mon sens, trop souvent oubliée par les acteurs de l'Union européenne. En interprétant et en appliquant la Convention comme un instrument vivant pendant plus de 60 ans, la Cour a créé un vaste corpus de droit couvrant une grande variété de sujets d'intérêt pour le droit international et pour notre paysage juridique européen contemporain. Que l'on pense aux garanties minimales qui doivent être intégrées dans une procédure pénale afin d'assurer l'équité du procès, à la défense des droits des femmes, des enfants, des personnes handicapées ou des minorités sexuelles et de genre, à l'élaboration d'un ensemble de droits environnementaux, y compris dans le contexte du changement climatique, à la protection de la vie privée et des données personnelles à l'ère du numérique, ou encore à la défense des droits d'expression et de réunion qui sont la sève de la démocratie, pour ne citer que quelques exemples. Le développement des normes de la Convention a également permis de combler à des moments cruciaux des lacunes importantes dans la protection des droits fondamentaux au niveau de l'Union européenne et a imprégné la formulation et l'esprit de différentes dispositions du traité de l'Union européenne, notamment les articles 2 et 6, paragraphes 1 à 3 de ce traité, ainsi que de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La position actuelle de la Cour et le système de la Convention dans son ensemble ne peuvent toutefois être dissociés des défis auxquels est confronté de manière plus générale le Conseil de l'Europe, alors qu'il s'efforce de protéger les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit dans sa 8e décennie d'existence et pendant une période très turbulente. Certains défis auxquels doit faire face le Conseil de l'Europe ont été abordés en 2023 à l'occasion du 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenu à Reykjavik. Avant ce sommet, qui a été convoqué à la suite de l'invasion de l'Ukraine, la Cour a publié un mémorandum qui mentionnait trois questions essentielles pour elle. L'exécution des arrêts, la mise à disposition de ressources suffisantes et durables permettant l'exercice effectif de sa mission judiciaire et l'importance de sa juridiction résiduelle vis-à-vis de la Fédération russe à la suite de son expulsion du Conseil de l'Europe. Près de 75% du rôle de la Cour est constitué de requêtes posant des questions pour lesquelles la Cour dispose déjà d'une jurisprudence bien établie ou d'affaires répétitives. Et ce chiffre indique très clairement une absence de prise de responsabilité par les États membres. Mais près de 19 000 requêtes sont pendantes au niveau des chambres de cette juge. Il s'agit soit d'affaires prioritaires, soit d'affaires qui soulèvent des questions juridiques, politiques et sociétales d'importance pour un État donné, pour plusieurs États ou pour le système de la Convention dans son ensemble. Pour vous donner quelques exemples d'affaires françaises de cette nature, au cours de ces deux dernières années, la Cour a tranché des questions relatives à la rapatriement de femmes et d'enfants français des camps syriens, aux devoirs et responsabilités des personnalités politiques utilisant les réseaux sociaux, à l'assignation à résidence imposée par l'État pendant l'état d'urgence à des islamistes radicalisés ou à l'incrimination générale et absolue de l'achat d'actes sexuels s'inscrivant dans un dispositif législatif national cherchant à lutter contre la prostitution. Toutefois, ainsi qu'il ressorte des dates du prononcé de ces arrêts français, il a pris entre 3 à 8 ans pour fournir les réponses recherchées par les requérants et pour fournir la clarté nécessaire pour le respect par les autorités nationales de leurs obligations en vertu de la Convention. Et il ne s'agit pas malheureusement de cas isolés. Dans un arrêt rendu en 2023 dans une affaire belge, la Cour a relevé un problème systémique de durée excessive des procédures civiles dans cet État. Se référant aux principes de subsidiarité et de responsabilité partagée sur lesquels se fonde le système de la Convention, la Cour a souligné que ce système ne peut pas fonctionner correctement si les juridictions internes ne rendent pas la justice dans un délai raisonnable au niveau national. Ipso facto, des retards enregistrés au niveau de la Cour de Strasbourg sont intenables. Surtout, c'est une des principales finalités de la Convention est d'agir en tant que système d'alerte avancé. Il a fallu plus de 4 ans pour rendre cet arrêt belge qui condamne un problème systémique au niveau belge, touchant plusieurs milliers de justiciables. Il est très douloureux pour un ancien membre de la Cour de mettre en lumière les difficultés que rencontre la juridiction. Mais il me semble nécessaire d'expliquer d'abord aux parties prenantes, les États surtout, mais aussi au grand public, le manque de ressources dont la Cour de Strasbourg a souffert pendant des années. En effet, avant le sommet de Reykjavik, la Cour avait perdu plus de 50 postes dans un greffe qui ne compte que de 250 juristes avec un rôle de 62 000 requêtes. Cette perte de postes était à cause d'une politique budgétaire restrictive en vigueur au Conseil de l'Europe, mais cette politique était le résultat non seulement de l'austérité issue de la crise financière qui a affecté les juridictions dans tous les États, mais également de la décision prise par certains États qui étaient ou qui sont des grands pourvoyeurs d'affaires, comme la Fédération russe et la Turquie, de réduire leur contribution budgétaire. La question principale qui se pose aujourd'hui est donc celle de savoir s'il est réaliste d'attendre d'une juridiction qui se compose de 46 juges, qui dispose de ressources juridiques et matérielles limitées et qui exerce les 4 fonctions très différentes que je vais exposer dans un instant, qu'elle traite toutes les affaires pendantes promptement, tout en clarifiant et en étoffant les normes dont notre époque a besoin en matière de démocratie, d'état de droit et de droits de l'homme. Heureusement, une augmentation du budget de la Cour à la suite du 4e sommet permettra le remplacement de postes perdus. Mais en réalité, la Cour va récupérer le personnel qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Le cœur du problème reste, et je crains restera, celui de savoir comment concilier les 4 fonctions suivantes que la Cour de Strasbourg est aujourd'hui appelée à s'acquitter, à savoir, premièrement, filtrer un énorme volume de requêtes irrécevables. Plus de 31 000 requêtes ont été déclarées irrécevables ou rayées du rôle en 2023. Deuxièmement, traiter un grand nombre d'affaires bien fondées mais plus ou moins répétitive ou identique par rapport à laquelle la jurisprudence de la Cour est très claire. Troisièmement, trancher dans les délais appropriés des affaires qui soulèvent des questions juridiques complexes et souvent inédites, telles que les affaires françaises que je viens d'évoquer. Et quatrièmement, c'est souvent oublié, gérer le nombre record d'affaires interétatiques, surtout celles relatives à l'invasion de l'Ukraine, et au conflit dans le Nagorno-Karabakh ou dans le Transnistrie. Tournant vers l'avenir, quel rôle doit jouer la Cour européenne des droits de l'homme afin d'apporter une réponse appropriée non seulement aux défis sociétaux de demain, mais aussi aux défis qui, comme le changement climatique ou la tenue des élections véritablement libres dans l'ère digitale, se posent d'ores et déjà. Jusqu'à présent, les conférences de haut niveau au sujet de la réforme de la Convention ont porté avant tout sur des considérations pratiques. Les hautes parties contractantes ont, en règle générale, omis d'examiner la question plus fondamentale relative à la finalité du système conventionnel dans l'Europe du XXIe siècle. Toutefois, la meilleure manière d'utiliser les ressources limitées de la Cour au fin d'une maximisation des effets de la Convention et la défense des valeurs européennes communes dépend en large mesure à ce que l'on considère comme les fonctions essentielles et la finalité de la Convention et de la Cour. J'aimerais soulever des questions relatives à la fonction dite constitutionnelle de la Cour et m'en servir comme point de départ d'une réflexion plus poussée sur son avenir. Je tiens à préciser très clairement que l'utilisation du mot constitutionnel ne cherche pas à empiéter sur les attributions essentielles et fondamentales des juridictions nationales. Je ne suis pas en train de dire que la Cour européenne des droits de l'homme devrait rassembler en tout point aux cours constitutionnelles nationales. Le rôle de la Cour est et restera subsidiaire par rapport aux juridictions nationales. Sa seule compétence est et restera de déterminer s'il y a eu un manquement aux obligations découlant de la Convention. Le choix des moyens à utiliser pour assurer une exécution rapide et effective des arrêts de la Cour de Strasbourg est et restera le ressort de l'État défendeur et du Comité des ministres. La Cour n'a pas et n'aurait pas le pouvoir d'annuler une législation nationale. Toutefois, il est difficile d'ignorer que la Cour de Strasbourg a été dotée dès l'origine de certaines caractéristiques constitutionnelles. Les circonstances dans lesquelles la Convention a été établie, sa raison d'être consistant à offrir un moyen de défense du caractère et de l'intégrité des systèmes politiques constitutionnels et juridiques nationaux, son statut d'instrument constitutionnel d'ordre public européen et la nature même du contentieux des droits de l'homme sont autant d'éléments qui mettent en évidence ces caractéristiques dites constitutionnelles. À ces éléments s'ajoute, et c'est le point central de mon propos, la fonction normative de la Cour de Strasbourg, dont la portée s'étend bien au-delà d'une requête ou d'un requérant particulier. La Cour a expliqué à maintes reprises dans sa jurisprudence, et je cite, qu'elle a une double mission en ce qui concerne les requêtes introduites en vertu de l'article 34 de la Convention. Premièrement, rendre la justice dans chaque affaire en reconnaissant les violations des droits et libertés de la partie lésée au regard de la Convention. Mais ensuite, elle doit clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention et contribuer de la sorte au respect par les États des engagements qu'ils ont pris. La Cour a toujours considéré que l'octroi au requérant de sommes à titre de satisfaction équitable est une tâche accessoire à sa fonction principale en vertu de l'article 19 de la Convention. Et cette fonction principale consiste à veiller au respect par les États de leurs obligations résultant de la Convention. Le droit de recours individuel est un élément crucial, central du système de la Convention, mais ce système a également pour but, ainsi que le ressort de la jurisprudence, de trancher dans l'intérêt général des questions qui relèvent de l'ordre public. On peut donc opérer une distinction entre, d'une part, le rôle constitutionnel de la Cour, qui consiste à clarifier l'interprétation des dispositions de la Convention en veillant à préserver le niveau des garanties offertes par cette dernière en tenant en compte les conditions actuelles de la société, et le rôle juridictionnel de la Cour, qui est axé sur la justice individuelle. Les affaires traitées dans le cadre des procédures d'arrêt pilote ou quasi-pilote illustrent bien les éléments caractéristiques d'un rôle principalement constitutionnel de la Cour. La procédure d'arrêt pilote vise à repérer les problèmes structurels sous-jacents aux affaires répétitives introduites contre un ou plusieurs États. Elles permettent à la Cour de sélectionner une ou plusieurs affaires à traiter en priorité et d'ajourner ou de geler les affaires connexes dans l'attente de la résolution de l'affaire principale. Ce qui importe le plus n'est donc pas de trancher telle ou telle affaire, mais de trouver la solution au problème général et de donner des directives sur les normes de la Convention applicables aux États concernés. Dans le contexte français, un bon exemple de ce que constitue en réalité un arrêt pilote est l'arrêt GMB et autres contre France sur les conditions de détention. La Cour de Strasbourg a constaté des violations des articles 3 et 13 de la Convention, pointant du doigt la problématique structurelle de la surpopulation carcérale en France. L'arrêt de la Cour a été suivi par des interventions de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel par la voix de la QPC, et sauf erreur de ma part, a mené aussi à des modifications législatives. Si ce grave problème n'est pas encore réglé, le dialogue entre les instances nationales et européennes a au moins ouvré dans la bonne direction. Aussi, dans le sens d'une approche plus constitutionnelle, la Cour met en œuvre depuis quelques années une politique de prioritisation, l'objectif étant de repérer promptement et de traiter plus rapidement les affaires qui revêtent une importance particulière pour un État donné ou pour le développement du système de la Convention et qui soulèvent des questions nouvelles quant à l'interprétation et l'application de la Convention. Ces affaires, que selon le jargon de la Cour sont appelées les affaires à impact, peuvent porter sur des questions très diverses, telles que la bonne gouvernance démocratique, l'état de droit, la protection de l'environnement, les nouvelles technologies, l'égalité et la violence domestique ou le changement climatique, pour ne citer que quelques exemples. Dans une affaire tranchée en 2017, une affaire qui s'appelle Burmitch et autres contre Ukraine, la Grande Chambre de la Cour s'est trouvée face à un dilemme qui a porté au premier plan la question du rôle et de la finalité de la Cour. Cette affaire concernait un problème systémique dans l'État concerné, je l'ai mentionné dans l'introduction, à savoir l'inexécution des décisions des juridictions internes en Ukraine en violation de l'article 6 de la Convention. Ce problème a et avait de graves conséquences pour les personnes concernées et pour l'État de droit en général dans l'État défendeur qui, on ne doit pas l'oublier, est maintenant candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Mais il s'agit d'un problème qui reste néanmoins une question juridique par rapport à laquelle la jurisprudence de la Cour est claire, nette et facilement applicable au niveau interne si la volonté existe. La Cour avait déjà adopté un arrêt pilote sur cette question dans une affaire ukrainienne qui s'appelle Ivanov en 2009. Et dans Ivanov, elle a donné des instructions détaillées à l'Ukraine au sujet des mesures à prendre pour remédier les problèmes structurels identifiés. Ayant statué sur un total de 14 000 requêtes dans des affaires semblables, au moment où la Grande Chambre était de nouveau saisie en 2017, 12 000 requêtes ukrainiennes de cette nature restaient encore sur le rôle. Dans son arrêt, la Grande Chambre a conclu qu'elle s'était déjà acquittée de sa fonction judiciaire en identifiant la défaillance systémique et en constatant une violation de la Convention. Elle avait également donné des orientations quant aux mesures générales à adopter pour une exécution satisfaisante de l'arrêt pilote, de manière à assurer une réparation et un redressement à toutes les victimes passées, actuelles et futures de la violation systémique relevée. La Cour a donc décidé de rayer les 12 000 affaires pendantes du rôle. Elle les a transmises au comité de ministres afin que cet organe les soumette à une procédure d'exécution appropriée. Selon la Cour, et je cite, « Compte tenu des efforts qu'elle déploie depuis plus de 16 ans pour examiner les affaires du type Ivanov, la Cour conclut que la répétition des mêmes conclusions dans une longue série d'arrêts sur des affaires semblables n'apporterait rien et ne servirait pas mieux la justice. Une telle démarche ne contribuerait notamment pas de manière utile ou sensée au renforcement de la protection des droits de l'homme dans le système de la Convention. » La décision de la Grande Chambre dans Burmitch n'a pas été partout saluée. Les juges de la minorité ont estimé que ce transfert du problème de l'inexécution de l'arrêt pilote et des affaires pendantes vers le comité de ministres a, et je cite, modifier complètement le paradigme bien établi du système de la Convention. Certaines parties de la doctrine ont aussi critiqué l'approche de la Cour. Elles considéraient que la Cour avait trahi le droit de recours individuel introduisant un système de certiorari par une porte dérobée. Compte tenu des événements en Ukraine depuis lors, et de l'investissement de la Cour dans le traitement rapide et efficace des affaires interétatiques relatives à ce conflit, on pourrait se demander si la politique judiciaire pour laquelle la Grande Chambre a opté dans Burmitch était la bonne, voire la seule voie à entreprendre. Je laisse à vous de décider, chacun aura son opinion sans doute. Mais mon appel en faveur d'une réflexion profonde sur l'avenir de la Cour ne doit pas être interprété comme une trahison du droit de recours individuel, clé de voûte du système conventionnel. J'appelle pour l'essentiel à ce que le système de la Convention et le rôle que joue la Cour en son sein soient protégés en ménageant un meilleur équilibre entre les deux fonctions constitutionnelles et juridictionnelles qu'elle a exercées jusqu'à présent. Si d'anciens juges et d'anciens présidents ont évoqué dans un contexte extrajudiciaire la nécessité d'examiner et de développer le rôle constitutionnel de la Cour, le discours officiel sur la réforme du système de la Convention a mis l'accent sur des solutions qui exigeraient quand même de la Cour qu'elle juge absolument chacune des affaires qui lui sont soumises. La préservation du rôle juridictionnel de la Cour dans le cadre d'un processus de réforme qui a été toujours axé sur des petits ajustements procéduraux et structurels, a donc pris le pas sur la question de savoir quel est aujourd'hui, en 2024, le meilleur parti que la Cour puisse tirer de son rôle constitutionnel. Mais pour quel résultat? Les réformes et les innovations du processus d'Interlaken ont certes permis de sauver le système du précipice en 2011, lorsque, je vous rappelle, il y avait 160 000 requêtes pendantes. Mais n'est-il pas illusoire de penser que la Cour peut systématiquement rendre la justice dans chacune des affaires qui lui sont soumises, alors que les crises profondes que connaît notre continent, qui touchent aux politiques et à l'économique, à l'état de droit et à la sécurité, font naître en permanence une multitude de nouveaux griefs liés aux droits de l'homme et qu'elles menacent d'en créer d'autres à l'avenir. En 2023, j'ai présidé la Grande Chambre dans l'affaire Yüksel Yalçınkaya contre Turquie. Cette affaire concernait un enseignant turc qui avait été condamné pour appartenance à une organisation terroriste armée à la suite de la tentative de coup d'État survenue en Turquie en 2016. Si la Cour a accepté l'existence d'un danger public menaçant la vie de la nation, au sens de la Convention, elle a néanmoins conclu à des violations des articles 6 et 7 en raison du non-respect du droit à un procès équitable et de l'absence d'individualisation des éléments matériels et de l'élément moral constitutif de l'infraction. La Cour est actuellement saisie de 8000 requêtes semblables qui ont été introduites par des enseignants, des fonctionnaires et des juges turcs. Dans ses conclusions dans Yalçınkaya, qui a été traité par la Grande Chambre comme une affaire de principe afin de fournir à l'État défendeur, en cas de violation, des indications individuelles et générales, la Cour a rappelé aux autorités turques leur devoir de coopération. Mais comme les affaires Ivanov et Burmitch contre l'Ukraine, cette affaire révèle très clairement la force et la faiblesse du système de justice individuelle. Si les autorités turques décident de ne pas coopérer, la justice individuelle obligera la Cour de traiter ses 8000 requêtes. Mais même par la voie simplifiée, en comité à 3 juges, cela prendrait des efforts judiciaires et administratifs considérables dans une juridiction qui manque le personnel et le budget nécessaires. J'ai bien conscience des écueils auxquels la Cour pourrait se heurter en privilégiant son rôle constitutionnel. Celui-ci, s'il n'est pas bien géré, pourrait lui valoir des accusations de sélection arbitraire, voire politisée. L'idée que je souhaite faire passer est que la notion de recours, de droit de recours individuel, et la référence faite dans ce contexte au système de la Convention doivent s'interpréter dans un sens plus large, dans lequel la Cour n'est qu'un élément, fût-il très important et indispensable, de la structure générale de la protection des droits de l'homme sur notre continent. Au sein de cette structure, la Cour agit non pas comme une juridiction qui résout des griefs individuels, mais comme une juridiction aux caractéristiques constitutionnelles qui clarifie, sauvegarde et étoffe les normes applicables en matière des droits de l'homme, conjointement avec les juridictions supérieures nationales et, dans une certaine mesure, avec les juridictions de l'Union européenne. Que pouvons-nous donc faire pour renforcer le rôle constitutionnel de la Cour et garantir la stabilité future de celle-ci et du système de la Convention? Comme je l'ai souligné un peu plus tôt, j'entends seulement proposer quelques pistes pour alimenter une réflexion qui est pourtant une réflexion essentielle. Je commencerai par deux mesures modestes relevant du domaine, à mon sens, du immédiatement possible. Premièrement, la Cour pourrait de son côté recourir davantage aux critères de recevabilité fondés sur l'absence de préjudice important. En vertu de l'article 35, paragraphe 3b de la Convention, la Cour peut déclarer irrécevable toute requête individuelle lorsqu'elle estime que le requérant n'a subi aucun préjudice important. L'introduction de ce nouveau critère dans le protocole 14 a été jugée nécessaire au vu de la charge de travail toujours croissante de la Cour. Selon certains auteurs, le recours à ce critère présente à ce jour un bilan pitoyable. Jusqu'à récemment, la Cour ne pouvait rejeter une requête sur cette base de minimis qu'à condition que les griefs qu'elle soulevait avaient été entendus par une juridiction nationale. Cela a conduit à une chambre de 7 juges qui devait adopter un arrêt portant sur une amende de stationnement d'environ 25 euros assortie après le requérant se fût plaint d'un retrait de 5 points sur son permis de conduire. La Cour a conclu à une violation de l'article 6 de la Convention à raison de l'absence en droit bulgare d'un contrôle juridictionnel. Elle a octroyé des frais et dépens, mais pas de satisfaction équitable. Les frais et dépens s'élevaient à 300 euros. On ne peut qu'estimer le coût sans commune mesure avec celui de l'amende de stationnement de cette saga judiciaire européenne qui a duré 9 ans. L'article 35, paragraphe 3, est assorti d'une clause de sauvegarde exigeant l'examen d'une requête au fond si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention l'exige. À mon sens, un examen détaillé par la Cour dans une affaire appropriée du fonctionnement des clauses de minimis et de sauvegarde serait, à mon sens, très utile. 14 ans sont passés depuis l'entrée en vigueur de cette nouvelle condition de recevabilité et une affaire de principe permettrait à la Cour de vérifier si l'application de ce critère par différentes formations judiciaires a été cohérente et permettrait aussi à la Cour de expliquer dans une décision ou dans un arrêt motivé quand et comment elle peut avoir recours à cette disposition. La seconde mesure relevant du possible concerne les barreaux nationaux. Dans sa jurisprudence, la Cour a souvent insisté sur le rôle important des avocats. Dans l'affaire Maurice contre France, par exemple, elle a estimé, je cite, « le statut spécifique des avocats intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, leur fait occuper une position centrale dans l'administration de la justice. C'est à ce titre qu'ils jouent un rôle clé pour assurer la confiance du public dans l'action des tribunaux, dont la mission est fondamentale dans une démocratie et un état de droit. » La Cour a rejeté ces dernières années en moyenne 37 000 requêtes par an. Plus de 30 000 étaient écartées par des juges uniques pour divers motifs d'irrécevabilité. Dans Maurice, la Cour a aussi insisté que de ce rôle particulier des avocats professionnels indépendants dans l'administration de la justice découle également un certain nombre d'obligations. Les barreaux nationaux pourraient veiller à ce que les avocats sachent ce qu'ils peuvent et doivent faire lorsqu'un client demande à introduire une requête à Strasbourg. Il semble évident qu'une contribution à une bonne administration de la justice européenne, qui est quand même un principe essentiel énuméré par le CCBE, implique une obligation de ne pas introduire des requêtes qui sont vouées à l'échec à cause de conditions procédurales et de recevabilité claires et bien établies. Passons maintenant à une évolution plus fondamentale. Il semble nécessaire de réfléchir à la conception d'un mécanisme institutionnel qui permette à la Cour de filtrer plus finement les affaires qui présentent un intérêt constitutionnel. Dans le cadre de ce mécanisme de filtrage, plus de poids pourrait éventuellement être accordé aux rapporteurs non judiciaires prévus à l'article 24 de la Convention. Si ces rapporteurs non judiciaires font partie du greffe, ils exercent leur rôle sous l'autorité du président de la Cour. Ils pourraient fonctionner dans un organe non judiciaire chargé de mener un examen préliminaire des affaires, jouant un rôle analogue à celui de l'ancienne commission. Toutefois, à la différence de la commission, l'organe en question serait rattaché à la Cour. Lorsque le respect des droits de l'homme garanti par la Convention et ses protocoles nécessite un examen juridictionnel, les affaires concernées pourraient être renvoyées devant la Cour. Et une chambre de requête, avec des règles délimitant sa compétence, une compétence qui devrait être respectée bien sûr, pourrait constituer un organe de filtrage par la suite. Il semble par ailleurs indispensable que la Cour, de son côté, même dans le cadre institutionnel actuel, ait recours davantage aux procédures d'arrêt pilote ou quasi-pilote. Cette procédure semble, pour le moment, soit trop complexe du point de vue procédural, soit trop peu utilisée, soit les deux. La Cour de Strasbourg est devenue, il faut le reconnaître, une usine judiciaire. Mais la répétition des mêmes conclusions dans une longue série d'arrêts sur des affaires semblables, quand la résolution du problème systémique déjà identifié par la Cour doit être recherchée ailleurs, ne sert pas mieux la justice. Le maintien du présent système, avec une arriérée d'affaires toujours très importante, des ressources limitées et un filtrage qui ne permet pas, malgré tous les efforts, le traitement suffisamment rapide des affaires d'ordre constitutionnel, ne contribue pas de manière utile ou sensée au renforcement de la protection des droits de l'homme. En outre, la situation actuelle ne permet pas à la Convention d'agir comme le système d'alerte avancé prévu par les pères fondateurs est aussi nécessaire maintenant qu'il était il y a 75 ans. En outre, il faut demander si la position prééminente de la Convention dans l'Europe de 1996 décrite par l'ancien président Ristel correspond aujourd'hui à la réalité pour de nombreux États parties, surtout les États membres de l'Union européenne. Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les États membres de l'Union ont changé assez radicalement l'architecture prévue pour assurer le respect des droits de l'homme dans le champ d'application de l'Union européenne. L'article 6 du traité de l'Union européenne prévoit la reconnaissance de l'égale valeur juridique de la nouvelle charte. Ensuite, il a ajouté une obligation pour l'Union d'accéder à la Convention, mais dans des conditions ne mettant pas en cause les principes constitutionnels sous-tendant le droit de l'Union. Et enfin, le traité de Lisbonne a maintenu les principes généraux du droit de l'Union, dans lequel on trouve aussi les droits fondamentaux. Le traité de Lisbonne a inséré l'article 2, qui prévoit que l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, démocratie, d'égalité, de l'état de droit. Une procédure prévue à l'article 7 permet aux organes politiques de l'Union de sanctionner un manque de respect des dix valeurs par un État membre, ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'à présent. Depuis le traité de Lisbonne, à cause non seulement de la charte, mais également, sinon surtout, de l'extension des compétences de l'Union, le rôle joué par la Cour de justice s'agissant de la protection des droits humains devient de plus en plus important. Les juridictions, les deux juridictions européennes, par la voie de différentes doctrines, telles la présomption de protection équivalente et une meilleure connaissance de la jurisprudence de chacune, ont cherché à renforcer la complémentarité entre leurs rôles respectifs. Toutefois, confrontés par la crise de l'état de droit dans plusieurs États de l'Union et en l'absence de solutions politiques, la Cour de justice est de plus en plus fondée sur l'article 2 et sur les valeurs y énumérées en combinaison avec d'autres dispositions du droit primaire et secondaire de l'Union. Dans deux arrêts de 2022, la Cour de Luxembourg a constaté que l'article 2 définit les valeurs dans l'article 2 définissent l'identité même de l'Union européenne en tant qu'ordre juridique commun. Ainsi, l'Union européenne doit être en mesure de défendre ses valeurs dans les limites de ses compétences. On ne peut que saluer le travail juridictionnel de la Cour de justice dans la défense de l'état de droit ces dernières années. Mais il faut aussi voir que la mobilisation de l'article 2 du traité de l'Union européenne pose de nouvelles questions, voire de nouveaux défis, relatifs à la division de compétences entre l'Union et ses États membres et entre la Cour de justice et les juges nationaux. Mais elle met également en exergue à quel point la réflexion recherchée relative à la finalité du système conventionnel dans l'Europe d'aujourd'hui est nécessaire pour éviter des doubles emplois, pour éviter la fragmentation des droits de l'homme ou pour éviter, pire encore, une absence de clarté peu utile sur le rôle respectif des juges européennes chargés de faire respecter les mêmes valeurs. En revenant à la réflexion générale sur les défis confrontant le système conventionnel, il faut souligner que toutes les solutions ne se trouvent pas certes au niveau de l'organisation de la Cour elle-même. Une condition préalable essentielle au bon fonctionnement d'un système fondé sur le pluralisme constitutionnel est que les juridictions supérieures nationales se comportent comme des gardiens fidèles des valeurs qui sous-tendent le système. Il est clair que le système de responsabilité partagée ne fonctionne pas comme il le devrait compte tenu du nombre de requêtes inscrites sur le rôle de la Cour. Toutefois, les 46 États membres ne sont pas tous dans la même situation. 72% des affaires pendantes proviennent de 5 États, Turquie, Russie, Ukraine, Roumanie et Grèce. Les requêtes provenant des autres 37 États, y compris la France, représentent autour de 13% du rôle. Il est néanmoins frappant de constater que sur la liste du top 10 de la Cour, à savoir les plus grands pourvoyeurs d'affaires, c'est une liste où on ne voudrait pas figurer, figurent 5 États membres de l'Union européenne, la Slovénie, la Pologne, l'Italie, la Grèce et la Roumanie, et 2 États avec le statut de candidat à l'adhésion, la Moldavie et l'Ukraine. En outre, ainsi que j'ai cherché à démontrer, la Cour peine à répondre de manière suffisamment rapide et des affaires provenant des plus petits pourvoyeurs de requêtes, comme la France, malgré le fait que c'est souvent dans ces affaires qu'on trouve les grandes questions juridiques d'actualité sur lesquelles les principes généraux découlant de la Convention doivent être éclairés au plus vite possible. Beaucoup de ressources se sont dirigées vers le maintien de la Cour à flotte pour la voie du traitement des requêtes irrécevables avec des conséquences inévitables pour le traitement des affaires recevables de caractère constitutionnel ou prioritaire. Si la finalité de la Cour est de traiter toutes les demandes qui lui sont adressées, tout en servant de système d'alerte avancé, comme ancienne présidente, je peux vous donner une solution très simple. Il faut doubler le personnel du greffe. Il faut tripler le budget de la Cour. Il faut permettre la création en lanterne de chambres de requêtes pour filtrer des affaires appropriées vers les formations les plus solennelles, à savoir les chambres à 7 ou la grande chambre à 17. Mesdames et messieurs, lorsqu'on m'a demandé de prononcer un discours au Collège de France, j'ai choisi un sujet qui faisait réfléchir l'oratrice en amont et l'auditoire ce soir. En plus, je vous ai fait souffrir mon petit accent irlandais pendant plus de 60 minutes et je m'excuse. Comme j'ai annoncé au début, mon intention aujourd'hui n'est pas d'offrir des solutions simples et prêtes à l'emploi concernant l'avenir d'une juridiction très noble et essentielle, mais plutôt d'appeler à une réflexion profonde et sincère sur la finalité du système mis en place par les pères fondateurs dans l'Europe moderne afin de permettre à la Cour européenne des droits de l'homme d'exercer au mieux le rôle important qui est le sien. Je ne saurais conclure devant vous aujourd'hui mieux que la Cour l'a fait en tant que collège de 46 juges dans son mémorandum pour le 4e sommet. Et je cite, « nous ne devons pas perdre de vue en ce moment critique de l'histoire de l'Europe le caractère remarquable de la Convention, traité de garantie collective des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni la responsabilité profonde qui nous encombre de transmettre ce mécanisme de protection internationale unique en son genre aux générations futures. Dans cet esprit solennel de responsabilité, tenté, j'espère, d'espoir, je conclue mon discours et je vous remercie très chaleureusement pour votre attention. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.